Il est 18h. Les informations, Georges Zedou, bonsoir.
Bonsoir. La Poste a accusé de pousser ses employés vers la sortie. Syndicom a pointé du doigt la pression inhumaine mise sur les employés des bureaux de poste de l'arc jurassien. La Poste réfute toute accusation. Oui à l'unanimité à Berne pour empêcher les chauffeurs de taxi ayant été condamnés pour agression de conserver leur licence. On revient sur une motion du député socialiste biennois Karim Saïd. En Suisse, les hôpitaux sonnent l'alarme. Pression financière et pénurie de personnel. Les établissements veulent accélérer le virage ambulatoire, miser sur la numérisation et renforcer la coopération entre les sites. On en parle avec la directrice de la Fêtière H+, et le directeur du centre hospitalier biennois. Météo, un temps sec et un ciel dégagé ce soir et cette nuit. Demain, on peut s'attendre à un peu de grisaille en plaine qui va se dissiper en cours de journée avec de belles éclaircies en vue et quelques flocons en fin de journée. La liste des accusations est longue et les mots employés sont forts. Sous-planification des employés, pression dans les objectifs de vente ou encore justification intrusive d'absence maladie. Syndicom a pointé du doigt les conditions de travail des employés des bureaux de poste de l'arc jurassien ce jeudi. Ça concerne des offices dans le Jura bernois, la partie francophone de Bienne, les cantons de Neuchâtel et du Jura. Depuis l'annonce, il y a une année de la restructuration des offices, la Poste forcerait les départs qu'elle souhaitait naturelle d'ici 2028 dans l'arc jurassien. Une stratégie du choc, affirme Virginie Tsurcher, co-responsable Syndicom pour la région romande.
Ce qui a été constaté dans l'arc jurassien, c'est que ces restructurations sont faites vraiment à marche forcée, assez rapide. Ce qui fait que dans ces conditions-là, si vous voulez, le fait de dire qu'on va s'appuyer sur des départs naturels ne joue pas. Dans cette stratégie du choc, par exemple, sous-planifier des collègues qui vont enchaîner des heures négatives parce qu'il y a moins de fréquentation dans les offices. On va leur proposer des déplacements, des changements de contrat, des modifications qui, en fait, dans les faits, ne sont pas compatibles avec leur équilibre de vie professionnelle ou de vie privée. Et puis surtout, on va leur mettre une pression véritablement extrêmement forte sur les objectifs de vente, en fait. Mais vraiment, ce qui ressort, c'est cette souffrance au travail. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent le matin en larmes, il y a des gens qui ont la boule au ventre, il y a des gens qui ont perdu le sens de leur mission de service public, parce qu'en fait, on nous dit, on a fait de nous des vendeurs, on doit harceler la clientèle, parce qu'on doit vendre.
Cette annonce est le fruit d'un mandat syndical signé par 122 collaborateurs sur les 150 que compte la filiale Poste dans l'arc jurassien, soit environ 80% du personnel. De son côté, la Poste tombe des nues face à ces accusations. Selon le Géant Jaune, aucun indicateur interne ne montre un tel mal-être au sein des employés. De plus, la Poste n'était pas au courant de la démarche du syndicat. La réponse de Nathalie Desrobert, porte-parole de la Poste.
Nous réfutons les accusations infondées de pression inhumaine. D'après tous nos indicateurs, nous n'avons aucun chiffre qui pourrait étayer cette situation. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que si des collaborateurs ont le sentiment que leurs conditions de travail, elles se sont détériorées, il est important qu'ils fassent remonter cela soit vers leur ligne, soit vers notre outil où on peut signaler quelque chose qu'on veut signaler de manière anonyme. Une chose est sûre, c'est que la Poste applique et respecte strictement la CCT en vigueur qui a été élaborée avec nos partenaires sociaux, dont Syndicom.
À Péry, un chantier d'envergure se prépare au-dessus de l'autoroute A16. Le pont qui enjambe la voie rapide aux abords de la cimenterie Vigier est aujourd'hui en mauvais état. Au moment de sa construction, en 1962, il n'était pas prévu qu'il supporte le passage journalier d'autant de poids lourds. Alors ce week-end, le pont endommagé sera donc effectivement démonté. Le trafic sera coupé sous l'ouvrage dès demain soir et jusqu'au lundi 1er décembre à 3h du matin, avec une déviation obligatoire via la sortie de Péry. Les précisions d'Olivier Floïc, porte-parole de l'Office fédéral des routes.
Ce que l'on va faire dans l'opération coup de poing qui va débuter vendredi soir et qui s'achèvera dans la nuit de dimanche à lundi, c'est déconstruire cet ouvrage de façon à pouvoir ensuite à terme en reconstruire un autre pont verra le jour dans le courant du mois d'août 2026 et sera remis ensuite à la disposition effectivement de Vigier pour pouvoir permettre la circulation de véhicules très très lourds. Vous savez qu'on a déjà construit un autre ouvrage. L'objet en fait des travaux que l'on va réaliser, c'est de séparer, si vous voulez bien ce trafic, entre ce trafic très lourd qui doit pouvoir circuler et accéder en tout temps donc à la Vigier, et puis le trafic qui, lui, est issu de l'autoroute et qui ne supporte pas les charges qui sont nécessaires en fait pour la Vigier.
Donc il y aura deux voies distinctes.
Il y aura donc deux ouvrages, effectivement, un ouvrage spécifique en fait pour accéder à la Vigier et un ouvrage qui suit, je dirais, l'autoroute et sera uniquement à la disposition aussi bien des véhicules légers que lourds, mais pas évidemment de véhicules qui peuvent atteindre les 115 tonnes, comme je l'ai indiqué précédemment.
Olivier Floic au micro de Céline Roduit. On rappelle que pendant toute l'intervention, l'autoroute en dessous de l'ouvrage sera fermée à la circulation. Le trafic sur la 16 sera guidé par des agents présents sur place. Les véhicules en provenance de Bienne en direction de Tavannes devront notamment sortir puis entrer immédiatement à Péry. À Bienne, la police cantonale bernoise cherche des témoins après une agression particulièrement violente survenue hier soir à la gare. Céline Roduit nous en dit plus.
Vers 23h, un homme a été attaqué sur le quai numéro 5 par un individu qui l'avait déjà abordé quelques minutes plus tôt dans un bus des lignes 3 ou 4. Pour des raisons encore inconnues, l'agresseur a frappé la victime au visage, l'a jeté au sol, puis a continué à le rouer de coups. L'homme a même chuté sur les voies avant de réussir à remonter. Blessé, il a été pris en charge et transporté à l'hôpital. Le suspect, âgé d'environ 25 ans, francophone, mince, peau claire et cheveux noirs, a pris la fuite à pied avec une jeune femme qui l'accompagnait.
La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche actuellement des témoins ayant vu quelque chose dans le bus ou à la gare de Bienne. Mettre fin aux problèmes d'abus et de harcèlement sexuel dans les taxis du canton de Berne, c'est ce que demandait une motion déposée au printemps dernier par le socialiste biennois Karim Saïd. Un texte qui, rappelons-le, faisait écho à ces deux affaires d'agression en janvier dernier impliquant des chauffeurs de taxi à Bienne. Aujourd'hui, au Grand Conseil, la motion n'a pas été contestée et a même été acceptée à l'unanimité. Pour Karim Saïd, c'est une belle victoire, mais pas vraiment une surprise. On l'écoute.
Déjà, lorsque j'ai contacté un certain nombre de collègues d'autres partis pour co-signer la motion, j'ai eu des soutiens très divers, que ce soit des Verts, du Centre ou même de l'UDC. D'autre part, dans la réponse du conseil exécutif, on sentait une vraie prise de conscience du problème. Et dans la réponse, il était indiqué que toutes ces mesures allaient être prises dans la première lecture de la loi des taxis. Cela a été fait et cela a été validé ce matin. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il y ait un rejet, d'autant plus que ces points-là, lors de la discussion de la loi, n'ont pas été spécialement contestés ou ni fait l'objet d'amendements.
Alors justement, cette loi, parlons-en, loi cantonale sur les taxis, sur les voitures de transport avec chauffeur, est-ce qu'elle répond entièrement aux attentes que vous aviez mises à travers ce postulat, ou bien est-ce qu'il y a peut-être un point ou l'autre qui reste un peu en suspens pour vous ?
Oui, alors il y avait effectivement un point qui ne pouvait pas être entièrement réalisé, donc c'était le point en lien avec l'annonce des procédures en cours, puisque le droit supérieur l'interdit, mais néanmoins, il y a quand même une autodéclaration des chauffeurs qui sera instauré. Et l'objectif est que ces chauffeurs-là soient contraints de s'auto-annoncer. Mais sinon, je suis totalement satisfait de la manière dont ça s'est passé.
Karim Saïd était au micro de Régis Meria. À noter encore que la loi cantonale sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur devra encore être votée par le Grand Conseil en deuxième lecture dans les 3 à 6 mois à venir. Si elle est acceptée, elle entrera en vigueur en 2027. La transformation du paysage hospitalier suisse est incontournable. C'est la fêtière des hôpitaux H+, qui l'a affirmé ce jeudi à Berne. Les hôpitaux sont sous pression financière. Ils estiment que les tarifs versés par les caisses maladies ne couvrent plus leurs frais. Ils sont aussi préoccupés par la pénurie du personnel soignant. Les hôpitaux entendent miser davantage sur les soins ambulatoires, la numérisation et surtout sur une mise en réseau des sites de soins au-delà des frontières cantonales. Cette nouvelle stratégie doit-elle d'abord séduire les assureurs maladie pour obtenir davantage de moyens ? On écoute la réponse de la directrice d'H+, Anne-Geneviève Butikofer.
Pas du tout. Aujourd'hui, le paysage de santé est en pleine mutation. Cette transformation, on l'appelle de nos voeux, non seulement pour nous assurer qu'il soit viable financièrement, mais aussi pour que le personnel hospitalier puisse travailler dans des conditions adéquates, mais en plus que l'on offre aux patientes et aux patients un accès aux soins de la meilleure qualité possible. Les prestations qui sont fournies par les hôpitaux sont d'extrêmement bonne qualité, mais aujourd'hui, le système atteint ses limites. C'est-à-dire que si le status quo est maintenu, on n'arrivera plus à offrir des prestations aussi bonnes bonne que celle que l'on offre aujourd'hui. Donc on doit faire évoluer le système. L'hôpital n'est plus qu'une institution stationnaire. L'hôpital est également une institution qui offre un soin ambulatoire, là où personne d'autre ne peut fournir les soins à la population. On doit penser de manière plus globale.
AH+ prône trois axes pour transformer les hôpitaux, le développement de l'ambulatoire, la coopération entre hôpitaux et aussi la numérisation. Alors quel impact cette stratégie aura sur un établissement régional, par exemple le centre hospitalier de Bienne? Son directeur pour 2 mois encore et vice-président de AH+, Christian Schneider.
Nous avons déjà donné une bonne réponse par rapport à l'ambularisation avec cette infrastructure que nous avons établie autour de la gare avec un bloc opératoire ambulatoire. Après tout le reste, c'est mieux coordonné par exemple avec l'hôpital du Jura, le réseau de l'Arc ou aussi le réseau hospitalier Neuchâtel-Noir, spécifiquement aussi dans ce réseau bleu. On donne une première réponse à une meilleure coordination des prestations. Et finalement, dans la digitalisation, c'est le seul point où c'est assez difficile. Nous avons notre propre projet d'une plateforme d'échange des données entre les prestataires, mais c'est vrai que c'est presque trop pour un petit, en guillemets, prestataire comme on est au centre hospitalier de Bienne.
Des propos recueillis par Serge Jubin. AH+ ne fixe plus d'objectifs de réduction du nombre d'hôpitaux et entend remplacer la concurrence actuelle par de la collaboration. L'industrie horlogère est liée à la Suisse depuis ses débuts et le restera encore à l'avenir. Deux raisons expliquent que ce secteur ne disparaîtra pas de notre pays. L'absence de marché domestique et les régulations comme le Swiss Made. Pierre-Yves Donzé vient de rééditer de ses 2 ouvrages sur le secteur. L'un raconte l'histoire du Swatch Group, alors que le second est un livre plus global sur l'histoire de l'industrie horlogère suisse au 19e et 20e siècle. Dans ce dernier, on y apprend que la Suisse est restée numéro 1 mondial de l'horlogerie malgré les crises et les arrivées de nouveaux concurrents, comme par exemple le Japon à la fin des années 70. Et si l'industrie horlogère reste dans notre pays, c'est pour 2 raisons principales que nous explique Pierre-Yves Donzé.
Il y a un facteur général essentiel, c'est que parmi les nations horlogères, la Suisse, c'est la seule qui n'a pas vraiment de marché domestique. Dans tous les autres pays, on a des pays qui disposent d'un grand marché domestique. Et chaque fois qu'on aura un problème économique, ces horlogers dans les autres pays vont demander la protection de l'État pour fermer les frontières et bénéficier de leur marché. En Suisse, on ne peut pas faire ça. Donc, on est obligé de vendre nos montres dans le monde entier, dès le départ. Donc, on est obligé d'être compétitif. On ne peut pas avoir un gouvernement qui nous aide à fermer un marché domestique. Et cette contrainte va forcer dès le départ les horlogers suisses à trouver des solutions pour être meilleurs que les autres, pour être distincts des autres. Une deuxième explication au maintien de la production horlogère en Suisse, ce sont la régulation, ce sont des lois mises en place par les autorités fédérales suisses qui obligent à produire en Suisse. Parce que je vous rappelle que d'autres industries, comme le chocolat par exemple, sont complètement globalisées. Mais pour l'horlogerie, c'est spécial, c'est une exception. La Confédération est intervenue à travers diverses lois au cours du XXe siècle. Là, plus importante aujourd'hui, c'est la loi sur le Swiss Made. Pour vendre une montre Swiss Made, il faut qu'une partie importante des composants soit fabriquée en Suisse.
Ces 2 ouvrages de Pierre-Yves Donzé ont été réédités aux éditions neuchâteloises Alphil. Et puis on saute directement à l'international. Vladimir Poutine pose ses conditions. Le président russe a affirmé aujourd'hui que Moscou cessera les hostilités en Ukraine si les forces de Kiev acceptent de se retirer des territoires dont la Russie revendique l'annexion. Si les troupes ukrainiennes ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. La Russie avait revendiqué en septembre 2022 l'annexion de 4 territoires qu'elle ne contrôle pas entièrement.
Il est 18h14.
RJB Sport.
Des déplacements aussi importants que périlleux pour Young Boys et Bâle en Ligue Europa de football. Les 2 équipes helvétiques disputent aujourd'hui leur 5e rencontre de la phase de groupe. Les Bernois jouent à 18h45 sur le terrain d'Aston Villa, alors que les Bâlois sont attendus à 21h en Belgique sur la pelouse de Genk. Les 2 formations seraient bien inspirées de ramener des points pour entretenir leur objectif de qualification. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée.
RJB Sport.